Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis. Nova.
De mon côté, ce que moi je constate, c'est une démocratisation effectivement de l'emploi des emojis, des émoticônes, qui grandit de plus en plus au fil du temps, et ce, à tous les niveaux de la société. C'est toujours quelque chose qui est plus utilisé par les plus jeunes, mais néanmoins, plus personne n'ignore ce phénomène, et même chez les plus âgés, qui sont souvent en communication avec leurs petits-enfants, etc., et ben, ils ont plein de questions, ils savent que ça existe, et puis ils essayent aussi de les utiliser, ils les utilisent parfois, ce qui provoque parfois des petits quiproquos assez rigolos, mais en tout cas, voilà, oui, c'est quand même une pratique qui est connue, et il y a globalement quand même une démocratisation de l'emploi des émoticônes et des emojis.
Pierre Alté est maître de conférences en sciences du langage à l'Université de Paris-Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les émojis. Pour lui, leur utilisation de plus en plus fréquente naît d'un besoin de partager nos émotions pour fabriquer du sens. Camille Maestrachi l'a interviewé pour notre podcast Travail en cours, qui se penche sur les bouleversements du monde du travail. Aujourd'hui dans Fracas, je leur laisse la parole.
En fait, ça change pas grand-chose, curieusement. C'est-à-dire que c'est assez spectaculaire, effectivement. On regarde des corpus de communication numérique, on se dit « Ouh là là, il y a plein de choses incroyables, ces petits dessins, etc. » Alors, c'est vrai que ça, c'est une vraie nouveauté. C'est que l'utilisation d'images comme ça, interagissant avec des énoncés écrits, tout à l'écrit, pour montrer l'émotion de celui qui écrit, ça, c'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas nouveau qu'on communique par petites images, par pictogrammes, etc. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Les premières formes d'écriture sont pictographiques, hein, avec des petites images pour signifier différentes choses. Donc, c'est pas du tout nouveau. Par contre, le fait de les employer comme ça, c'est-à-dire avec un énoncé utilisant notre système d'écriture alphabétique, plus une image qui va en fait essayer de montrer comment celui qui parle se positionne par rapport à ce qu'il écrit, ça c'est tout à fait nouveau. Mais c'est nouveau dans la forme, mais au fond, si on peut parler ainsi, ça correspond tout à fait à ce qu'on fait habituellement dans notre communication de tous les jours, avec nos gestes, nos mimiques faciales, notre intonation, tout un tas de choses qui ne sont pas directement constitutives de la langue qu'on utilise, mais qui interagissent avec pour fabriquer du sens. Donc c'est tout à fait la même chose avec les emojis et les émoticônes, en fait, qui se contentent pour la plupart de simplement représenter par des images des attitudes physiques, des mimiques faciales qui interagissent avec ce qu'on dit. Donc en fait, c'est pas si nouveau que ça, c'est juste un besoin qu'on a. Notre communication, elle est faite comme ça. Notre communication, elle est fondée sur ce système où il y a ce qu'on dit et puis il y a aussi la façon dont on le dit. Et la façon dont on le dit, elle se voit par le corps, quoi. On reproduit ça à l'écrit, voilà.
Alors effectivement, on a tendance à penser, enfin en tout cas c'est ce que vous dites, que ces émojis viennent remplacer quelque part ce qu'on appelle, dites-moi si je me trompe, mais les indications non verbales telles que la gestuelle, l'expression du visage, etc., qui vient effectivement compléter notre propos quand on communique à l'oral ou en face à face. Mais à la différence près que les émojis, ils sont intentionnels, ils sont réfléchis, alors que dans le langage en face à face, avec ces fameux indicateurs non verbaux, de temps en temps, on va être trahi quelque part par sa propre expression, ses propres gestes, qui sont parfois que l'on ne maîtrise pas tout le temps, non ?
Alors, ça, c'est une excellente question à laquelle il est très très difficile de répondre. C'est-à-dire quand on cherche à s'intéresser à l'intentionnalité qu'il peut y avoir derrière la production d'un signe quel qu'il soit, en fait, c'est très compliqué à tester et c'est très compliqué à déterminer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on peut faire des lapsus à l'écrit, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'on peut écrire, se tromper de mot. Et en fait, l'écrit, moi, je suis partisan de dire que l'écrit, effectivement, relève d'un contrôle peut-être plus fort et plus intentionnel que l'oral, mais néanmoins, il y a des choses qui nous échappent à l'écrit. On fait des erreurs, on fait des lapsus. Il y a effectivement un emploi tout à fait intentionnel des emojis parfois. On va réfléchir, on va se dire « Ok, qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait peut-être rigolo ou pertinent ici ?» Mais il y a aussi, et surtout chez les plus jeunes qui ont vraiment l'habitude de cette forme de communication, un ensemble de réflexes dans l'emploi des emojis qui n'est plus du tout calculé, qui a été complètement intégré. Et en fait, encore une fois, c'est exactement la même chose pour ce qui concerne nos signes mimo-gestuels, enfin les signes non-verbaux à l'oral. Il y en a qu'on maîtrise parfaitement et on sait très bien qu'il y a des sourires forcés. Hein, et par contre, il y a aussi des sourires complètement, on va dire, symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas d'un contrôle. Donc c'est la même chose. À l'oral, en mimo-gestuel, des choses nous échappent, des gestes nous échappent, d'autres sont parfaitement contrôlés. À l'écrit, je pense aussi hein, qu'il y a une forme de contrôle plus forte, mais néanmoins, il y a aussi des usages qui s'installent en réflexe et qui, au final, nous échappent un peu, quoi.
Au final, l'apparition de ces emojis, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose, dans le sens où est-ce que ça vient enrichir notre palette d'expression et rajouter de l'information ou venir remplacer justement ce déficit de gestuel, etc., quand on parle à l'écrit, ou au contraire, ça peut avoir cet effet de venir polluer notre message et brouiller les pistes et quelque part venir affaiblir en fait notre message.
Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, c'est ni bon ni mauvais, c'est là quoi en fait. Et si c'est là, c'est que on en a besoin à un moment. Hein. Et en fait, quand on regarde l'histoire de ces signes là, ils sont apparus dès que les premières formes de chat sont apparues, dès les années 70. Donc les premiers gens qui communiquent par ordinateur, par interface informatique, sur des ordinateurs de la taille d'une pièce dans des universités américaines, tapent leur premier truc sur leur petit clavier. Et dans les corpus qu'on a de ces échanges-là, il y a déjà des petites images qui sont rajoutées aux énoncés écrits pour montrer de l'émotion, etc. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, simplement, cette forme de communication, elle nécessite, c'est naturel, en tout cas pour un être humain qui se retrouve dans cette situation, de recourir à ce genre de système. Donc voilà, ça répond à un besoin. Après, effectivement, ça change un petit peu la façon dont on écrit, surtout en ligne. Et avec le changement, se pose tout un tas de questions de relation à ce changement. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Etc. Moi, personnellement, je dirais que de la même manière qu'on ne va pas dire qu'un geste ou un sourire menace en quoi que ce soit notre communication à l'oral, je ne vois pas pourquoi l'image d'un geste ou l'image d'un sourire menacerait notre communication à l'écrit. Les emojis ne concurrencent pas du tout la langue écrite. Elles viennent vraiment comme notre système mimo-gestuel en complément, fabriquer du sens avec notre langue. Donc elles posent pas de problème fondamental à la langue écrite et elles menacent pas notre communication. Elles ne l'appauvrissent pas non plus, ouais. Parce que simplement elles font partie de notre communication et tout comme les gestes et les mimiques ont toujours fait partie de notre communication. C'est simplement aussi qu'on est, surtout en Occident, dans les traditions philosophiques occidentales, on a vraiment des traditions du verbe et surtout de l'écrit. Et donc, ça nous bouleverse dès que nos façons d'écrire sont modifiées, mais l'écrit n'est qu'une transcription de l'oral, et l'oral, la langue orale, on sait depuis bien, bien longtemps, avec des gens comme MacNeil, etc., qui ont travaillé là-dessus, qu'il n'y a pas de langue orale sans corps, il n'y a pas de langue orale sans geste. Le geste, la pensée et la langue sont intrinsèquement et fondamentalement liés. Donc, qu'on retrouve ça à l'écrit, moi, ne me paraît pas du tout un appauvrissement. Simplement, c'est une nouvelle façon de le signifier, quoi. On a dans la langue écrite et dans la langue elle-même, on a des outils, en fait, pour manifester nos émotions. Ce sont les interjections, ce sont la ponctuation modale, les points d'exclamation, les points d'interrogation, certains adverbes. On a tout un tas d'outils qui nous permettent assez facilement de ce qu'on appelle en linguistique modaliser, c'est-à-dire montrer notre positionnement par rapport à ce qu'on dit à l'écrit, quoi. Donc en fait, on a ce système-là. Alors, il n'est pas aussi visuel et que les gestes et les mimiques. Néanmoins, il fonctionne à peu près de la même façon. On a tout un tas de mots, tout un tas d'éléments dans la langue qui nous permettent de remplir ces fonctions-là. Donc, moi, je ne crois pas en fait à un message écrit qui soit une pure information. Pour moi, ça n'existe pas. Je peux écrire de la façon la plus neutre possible. Je vais toujours montrer quelque chose de mon positionnement par rapport à ce que j'écris. Quand j'écris de façon très neutre, bah, je montre, par exemple, que je ne veux pas m'engager émotionnellement. Et ça, c'est déjà un indice émotionnel, quelque part. Mais je pense pas non plus que parce qu'on est à l'écrit, on ressente forcément le besoin d'en faire plus en termes d'émotion.
Parce que moi, par exemple, à titre personnel, c'est vrai que... Enfin, il est arrivé beaucoup plus de fois où un texto, un message, un mail était mal interprété, souvent d'ailleurs plutôt négativement, parce que le ton de mon message n'était pas perçu de la même façon, alors que en général, quand on communique à l'oral, le message y passe très clairement. L'intention qui est donnée au message est perçue quasiment à 100% par mon interlocuteur, ce qui n'est pas toujours le cas à l'écrit. En tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle.
Oui, oui. Non, bien sûr, vous avez raison. L'écrit, parce qu'il n'y a pas d'intonation, pas de mimique, pas de geste, a priori, effectivement, si vous balancez des phrases qui ne sont pas du tout modalisées, c'est-à-dire qui n'ont pas d'éléments linguistiques qui montrent comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous dites, effectivement, ça peut donner lieu à des quiproquos, à des malentendus, à des mauvaises interprétations. Effectivement, tous ces indices-là nous aident. Ce que je dis simplement, c'est que ces indices-là, ils existent dans notre langue. C'est-à-dire qu'on peut le faire sans emoji. Je peux utiliser des adverbes, je peux utiliser de la ponctuation, je peux utiliser plein de choses pour modaliser mon message, pour le rendre compréhensible et accessible.
Est-ce qu'ils peuvent aussi venir, ces émojis, décrédibiliser notre propos dans le cadre de communication professionnelle, dans le cadre du travail ? Est-ce que là, par exemple, on peut considérer que ça ne fait pas très sérieux ?
Alors, la décrédibilisation, elle peut être entendue à deux niveaux, quoi. Si on est dans une situation où on a le droit, c'est-à-dire que c'est socialement autorisé et voire même normal d'utiliser des émojis, les emojis peuvent contribuer à crédibiliser le propos. C'est-à-dire que quand je vais indiquer que je suis triste avec une emoji, si je suis dans une situation dans laquelle c'est normal d'utiliser des emojis, mon interlocuteur va peut-être attribuer plus de crédit à mon propos parce que je manifeste une émotion à propos de ce propos. C'est donc que ça me tient vraiment à cœur et qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'émotionnel. Et ça peut participer à la crédibilisation du message. Par contre, effectivement, dans le cas que vous évoquez, les emojis sont comparables un petit peu à ce qu'on appelle le registre de langue, soutenu, familier, etc. Et dans certains contextes, il est parfois mal vu d'utiliser des emojis parce que effectivement, ça fait peut-être trop enfantin, pas sérieux, etc. Ça peut être le cas dans des relations de travail, mais ça dépend vraiment des habitudes et des pratiques langagières qu'il y a au sein de chaque environnement de travail, quoi. Si on est entre collègues du même niveau hiérarchique et que voilà, on a des échanges familiers et cordiaux, ben les emojis vont s'y inviter assez naturellement. Si on écrit une demande d'augmentation à son supérieur, bon, je donne une situation vraiment cliché, pardon, mais évidemment ça va être plus compliqué et plus mal vu peut-être d'utiliser des emojis. Mais bon, ça dépend vraiment des environnements de travail, quoi. Il y a aussi des hiérarchies qui installent ce genre de rapport, qui mettent des emojis dans leurs mails, justement pour rendre les échanges plus sympathiques, etc. Ce qui peut aussi être perçu comme de l'hypocrisie de la part des salariés, etc. Bon.
Est-ce que les emojis peuvent venir jouer ce rôle, comme ils sont effectivement un peu plus du registre familier, pour venir un peu mettre à plat les relations hiérarchiques ou sociales ? Ou est-ce que là aussi, c'est un peu une fioriture et c'est parfois un peu hypocrite de penser ça ? Qu'au final, les relations de pouvoir, que ce soit au travail ou ailleurs, elles ne changent pas, même avec des emojis, quoi.
Moi, je pense que personne n'est dupe. C'est-à-dire que un management qui se met à utiliser des emojis dans ses emails, bon, les salariés vont bien comprendre qu'il s'agit d'une tentative effectivement de faire familier, de faire sympathique pour faire passer la pilule plus facilement sur certains échanges qui pourraient être houleux, etc. Alors la question après, c'est de savoir si ça fonctionne ou pas. Alors ça, j'ai pas fait d'études là-dessus, je ne sais pas, mais j'en doute fortement. C'est-à-dire que en fait, un langage commun, on en a un hein, déjà. C'est la langue française qui est notre langage commun. Donc rajouter des sortes d'artifices pour faire plus sympathique, plus familier, etc. Je pense, j'allais dire, j'espère que la plupart des gens s'en rendent compte très vite, quoi, et que, à mon avis, c'est plutôt interprété comme une forme de, ouais, alors je sais pas si hypocrisie est le mot, mais une forme de vernis diplomatique un petit peu malvenu, plutôt que comme une réelle tentative d'améliorer les relations entre les gens.
Et en même temps, étant donné leur usage toujours plus important, les bannir, ce serait aller un peu à l'encontre, je sais pas moi, de la modernisation de notre société. Donc, est-ce qu'il n'est pas aussi de la responsabilité des employeurs ou du domaine professionnel plus généralement, comme d'autres, hein, que d'accueillir ces changements ?
Les changements, ils sont inéluctables. Et les emojis en font partie. Maintenant, on a quand même dans la société des pratiques linguistiques qui sont très différenciées selon nos interlocuteurs, selon le positionnement de chacun par rapport à l'autre, selon les niveaux hiérarchiques, selon les classes sociales, etc. Et donc, ces choses-là, ces cadres-là, ils existent, quoi. Donc, quand il y a des changements, effectivement, bah, il se pose la question de savoir si ces changements vont être intégrés et quels sont ces changements, à quelle classe ils sont associés, s'ils sont associés à un registre familier, est-ce que ça va être facile de les faire passer dans des discours qui ont pour habitude d'être dans un registre soutenu. Donc, il y a tout un tas de résistances qui se mettent en place de part et d'autre. Alors, on peut prévoir. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, la plupart des tous les registres vont se mettre à intégrer les changements de la langue, ce qui est normal. Mais quand c'est issu d'une volonté, en fait, c'est ça la question. C'est la question de la volonté qu'il y a derrière, quoi. Ces changements, en général, ils s'installent sans volonté des locuteurs, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte de ce qui se passe et puis ça se fait tout seul. Dans le cas d'une direction qui se met du jour au lendemain à utiliser ces signes-là, on ne peut pas faire autrement que d'y décider une volonté de faire. Ce qui correspond pas à un changement naturel de la langue, qui est facilement accepté, mais ce qui, pour les récepteurs, correspond plutôt à une sorte de manipulation de la langue pour faire comme si.
Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams, à partir d'une interview de Camille Maestracci pour Travail en cours. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts dont Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.